Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Il y a des écrivains, Brice, qui passent pour les auteurs d'un seul livre. C'est le cas d'Ortega y Gasset avec son fameux pamphlet « La révolte des masses ». Est-ce l'arbre qui nous cache la forêt, Brice ?
Eh bien peut-être Florian, peut-être. On se doutait qu'un esprit aussi puissant ne pouvait pas être l'auteur d'un seul livre. « La révolte des masses », publié en 1930, est certainement son ouvrage le plus abouti. En tout cas, c'est le seul qui soit connu, lu et commenté en France. Ortega y Gasset a été l'un des premiers à comprendre que l'ère des masses était en train de produire un type humain particulier. Un Européen d'un genre nouveau, jouisseur mais ingrat envers les générations auxquelles il doit son confort, inconscient de ses propres limites, pensant par slogan, disponible pour tous les enrégimentements totalitaires parce qu'en révolte contre toute forme d'élitisme. Profondément ignorant du tragique de l'histoire. Bref, il traçait là l'un des portraits moraux les plus perspicaces de l'Europe au seuil des années 30. Portrait qui n'a pas tellement vieilli. On trouve d'ailleurs des échos des idées de son auteur chez nombre de nos contemporains, à commencer par Alain Finkielkraut. Il est vrai que la lecture de ce livre, La révolte des masses, est tellement stimulante qu'elle donne l'envie d'en découvrir davantage sur son auteur. Esprit sentinelle, un peu Aristo, si vous voulez, mais tellement lucide. Et voilà que Les Belles Lettres nous offrent la traduction d'une œuvre un peu antérieure, du même auteur, le thème de notre époque. C'est le contenu de cours de philo qu'Ortega y Gasset a donné au début des années 20. Il ne cherche pas à faire système, mais c'est bourré d'intuitions formidables. Par exemple celle-ci, lorsqu'il oppose les générations héritières aux générations rebelles, celles dont la pensée s'appuie globalement sur celle de leurs prédécesseurs et ce qu'il appelle les philosophies belligérantes, qui aspirent au contraire à détruire l'œuvre de leurs devanciers.
Mais Brice, quel est le sujet de ce livre, le thème de notre temps ?
Le grand problème auquel s'attelle dans ce livre Ortega y Gasset, c'est l'opposition qui lui semble nuisible pour la culture européenne de son temps entre la raison d'un côté et la vie de l'autre. D'un côté, le pensée géométrique, né avec Descartes, mais qui s'est épanoui surtout au siècle suivant, celui dit des philosophes, et dont Kant, avec sa raison pure, constituerait le sommet inégalé. C'est un monde séduisant, mais glacial et désert, suspicieux envers toute forme de spontanéité et surtout incapable de penser l'historicité ou la contingence. Car la raison est éternelle et universelle. Elle ne connaît pas la différence entre les cultures, les expériences particulières des individus ou des nations. Investi dans le domaine politique, ce rationalisme pur mène aux tables rases révolutionnaires. Quant à la culture, placée sous le signe de la seule raison, elle se résume à la vie spirituelle et se dessèche. Pour être vivante, selon notre penseur espagnol, une culture doit être vécue sur le mode des fonctions organiques. On doit créer comme on digère, comme on s'accouple. Sans l'intervention de l'instinct vital, la pensée se coupe du monde et devient stérile. La philosophie, vous me direz, n'avait pas attendu Ortega y Gasset pour montrer les risques que faisait courir à la pensée européenne un tel rétrécissement spirituel. On peut penser à la philosophie de l'histoire avec Hegel, mais surtout Nietzsche, sur lequel s'appuie d'ailleurs notre philosophe espagnol pour critiquer ce fameux rationalisme cartésien. Au passage, il réfute l'idée que la vitalité est nécessairement égoïste, qu'elle ne poursuit avec impétuosité que sa propre jouissance. Au contraire, en alimentant la faculté d'enthousiasme, notre instinct vital nous pousserait, soutient-il, à sortir de nous-mêmes, à agir pour des causes désintéressées, comme par exemple la justice. Mais le défaut majeur du vitalisme, selon Ortega y Gasset, c'est qu'il ne peut déboucher que sur le relativisme et la négation de la dimension objective de la culture. Le rationalisme pense les limites de nos capacités à nous saisir de la vérité, mais il ne doute pas de l'existence de cette dernière. Le vitalisme, si. Parce que profondément, le vitalisme ne croit pas à l'existence d'une telle vérité. Il s'évertue à la déconstruire. Et c'est en cela que notre Michel Foucault national est nietzschéen, vous me direz. Mais c'est une affaire bien postérieure à ces débats intellectuels d'avant-guerre. Il n'y a qu'en Europe, prétend Ortega, que la culture et la spontanéité, la raison et la vie ont été distingués au point d'avoir quasiment divorcé. C'est une idée qu'on agitait beaucoup entre les deux guerres. Souvenez-vous, on la trouve par exemple sous la plume d'Antonin Artaud dans Le théâtre et son double. À Bali, plaidait Artaud, l'art n'est pas distingué de la vie. On ne le contemple pas de l'extérieur, il est dans la vie. Le théâtre en particulier participe à la vie. Il y aurait donc là deux aveuglements complémentaires qu'Ortega entreprend de corriger, non pas à la manière d'un effort de dépassement dialectique des contraires, mais en prenant le parti de la vie, tout en essayant d'éviter les pièges du vitalisme. C'est ce qu'il appelle la raison vitale. « Chaque vie est un point de vue sur l'univers, écrit-il, chaque individu, personne, peuple, époque, est un organe irremplaçable pour la conquête de la vérité. Celle-ci existe donc bel et bien, mais c'est grâce à l'enthousiasme vital qu'on a les meilleures chances d'en approcher. » Pour mieux connaître Ortega y Gasset, il faut donc lire ce nouveau livre qui vient de paraître aux belles lettres et qui fait suite à la révolte des masses.
Le thème de notre temps, donc, aux belles lettres. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.